Bon, on va démarrer cette table ronde dont le thème est essentiellement le vaisseau spatial. Je crois qu'on peut dire qu'il y a deux types de machines mémorables en science-fiction, c'est essentiellement les vaisseaux spatiaux et les robots, je pense. Dans le cas du vaisseau spatial, on peut se demander la question si le vaisseau spatial n'est presque pas plutôt un personnage qu'un outil, qu'un véhicule, et peut-être même on ira explorer d'autres aspects de sa personnalité. Pour utiliser deux images en fait, cinématographiques populaires, on peut se demander si le Faucon Millennium n'est pas plus connu que Han Solo et l'Enterprise n'est pas plus connu que le Capitaine Kirk. C'est une question qu'on peut se poser. Dans une certaine mesure, les vaisseaux spatiaux sont devenus vraiment de véritables personnages de science-fiction dans certaines œuvres, pas dans toutes, dans des œuvres qui soient littéraires, audiovisuelles, comme je l'ai dit, ou graphiques. Ils sont même souvent plus personnifiés que les autres machines qui sont les robots. Enfin, en tout cas, je trouve. Il y a des robots très fades et des vaisseaux spatiaux très, très intéressants. Et donc, pour évoquer cette question, donc, le vaisseau spatial est-il un personnage des œuvres de science-fiction ? On a sur cette table ronde cinq auteurs prestigieux. Je vais peut-être commencer avec Alberto Jiménez Albuquerque, qui Aja aussi pour les intimes, c'est ça ? Aja. qui est jeune dessinateur de bande dessinée, assez prolifique. T'as écrit de nombreux albums, en particulier chez Soleil. Et en connexion avec le thème de cette table ronde, on peut citer Letter 44, ouais. Lettre 44, qui est sorti chez Glénat, où un mystérieux vaisseau spatial arrive dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter et reçoit l'attention du tout nouveau président des États-Unis.
Voilà.
Qui nous en dira un petit mot tout à l'heure. Ensuite, il y a Laurence Sunner, ici, qui est auteur de plusieurs nouvelles et surtout d'une trilogie remarquée qui s'appelle Quantica, qui entre dans le genre du space opéra ou peut-être plutôt de planète opéra, si on peut s'aventurer dans une classification en genre comme ça. Pourquoi planète opéra ? Parce que c'est une œuvre qui est centrée essentiellement sur l'exploration d'une unique planète, ou presque, et bon, on peut dire que tu aurais pu te passer de vaisseau spatial puisque tu es sur une unique planète, mais pas du tout. Tu as positionné un vaisseau mystérieux en orbite de ta planète qui s'appelle Gemma et qui est un personnage à part entière. Tu nous en diras un mot tout à l'heure. Pour continuer, Pierre Bordage, qu'on ne présente plus. Si, alors on va le présenter quand même. Tu as été le président de ce festival de 2000 à 2011 et tu es l'auteur de très nombreux romans dans de nombreux styles, dont le space opéra qui est ton style, le premier style que tu as publié avec la trilogie des Guerriers du silence qui est sortie en 93, récipiendaire du Grand Prix de l'Imaginaire et du Verlanger, et jusqu'à récemment Résonance qui est également un space opéra qui est sorti l'année dernière. Autre pilier du space opéra français, Laurent Genefort à ma gauche, également récipiendaire du GPI à deux années près, je crois, ou quelque chose comme ça, pour Arago, également auteur d'une quarantaine de romans, c'est ça ?
Oui, une soixantaine.
Soixantaine même, d'accord. Principalement dans le genre du space opéra. Depuis 2000, tu travailles entre autres, hein, bien sûr, sur le cycle d'Omal, dont le dernier opus s'intitule précisément « Les vaisseaux d'Omal ». Et dans la préparation de cette table ronde, tu m'as dit travailler sur une trilogie intitulée « Spire », sur une compagnie de transport spatial avec des vaisseaux en veux-tu, en voilà. Donc tu pourras nous parler de tout ça extensivement. Et notre dernière invitée, c'est Anne Lecky, à mon extrême gauche, à votre extrême droite, qu'on a le plaisir d'accueillir, qui nous vient des États-Unis. Donc, tu es l'auteur d'une trilogie dont le premier tome est sorti en 2013 aux États-Unis et a raflé tous les prix, Hugo, Nebula et j'en passe. Ça s'appelle, donc les trois tomes s'appellent La justice, l'épée et la miséricorde de l'ancillaire et c'est sorti dans la collection Nouveau millénaire chez J'ai lu en France récemment, cette année je crois même pour les deux derniers. Et dès le premier tome de ta trilogie, tu tords un peu le cou à tes vaisseaux spatiaux puisque ton héros est la conscience d'un vaisseau spatial qui se réfugie dans un corps biologique humain, dirons-nous. Alors j'ai envie de commencer le débat avec toi en te demandant mais qu'est-ce qui t'a pris de casser le cou aux vaisseaux spatiaux et d'où est venue cette idée de prolonger le vaisseau spatial, de te débarrasser en quelque sorte du côté mécanique du vaisseau spatial mais de garder sa conscience pour la projeter dans un être humain.
I was mostly thinking about how fun it would be to have a character who could be in a bunch of places at one time. But once you start from that, then there needs to be some kind of a center. And I feel like You know, as human beings, when we see something that moves, it's hard for us not to attribute some kind of intention to it, to some kind of thought. And we say things like, oh, the leaf that's blowing down the street wants to go down the street, or it wants to fall down off the tree, or whatever. And it's just that it's moving. And I think that cars and ships that we kind of talk to like they're real, it's hard not to think of them as beings that move under their own agency, even when they don't. And so I suspect that's part of why in science fiction, we can make that really true. We can make our cars and ships be characters in the story in the way that we kind of feel like they ought to be in the real world. And so that's one of the things that I really enjoyed about doing that. And I suspect that's a lot of what's behind making ships characters in science fiction, which is just, it's really attractive to me. I think it's really fun.
OK. Alors là, on est dans le vaisseau spatial qui dispose d'une intelligence artificielle, n'est-ce pas? Et même d'une intelligence qui est très puissante dans le cas de ton roman. Alors peut-être pour tout le monde, là, est-ce que le vaisseau spatial n'est personnage que s'il a une intelligence artificielle? C'est-à-dire qu'on en fait vraiment quelque chose d'intelligent, qui peut parler, qui peut agir, qui peut... ou comme le HAL dans 2001 par exemple, qui est le vaisseau spatial intelligence artificielle, peut-être pas référence, mais vous me corrigerez peut-être. Donc est-ce qu'il faut absolument qu'un vaisseau ait une intelligence artificielle pour qu'il devienne un personnage à votre avis? Question à la cantonade pour qui veut.
Tout dépend si on considère que, par exemple, des vaisseaux organiques, donc une espèce spatiale capable de voyager entre les étoiles, sont des sortes de vaisseaux spatiaux, on va dire, dont ils ont les oripeaux, c'est-à-dire des propulseurs, la capacité d'aborder une planète, etc. Donc là, à ce moment-là, non, on peut avoir tout à fait des cerveaux organiques. Voilà, et la SF, elle en regorge. Hein, il y a les vaisseaux baleines dans la culture. Il y a les animaux vils de Jean-Claude Dugnac. Il y en a un paquet.
Quelqu'un d'autre?
Vas-y,
Laurence.
Bon, moi, c'est un peu pareil. J'ai imaginé des vaisseaux qui sont nés d'une noosphère planétaire, c'est-à-dire d'une conscience en cohésion d'une espèce extraterrestre, et qui s'incarne dans un corps qui n'a rien de mécanique ni de lié à l'intelligence artificielle, mais qui naît d'une conscience collective en fait réunie en fait. Voilà, c'est pas une intelligence artificielle, mais c'est vraiment un vaisseau en plus qui a un caractère, qui est caractériel d'ailleurs en plus, c'est-à-dire qui a ses humeurs, etc., qui va pas forcément obéir à quelqu'un, etc., qui a sa propre indépendance et ça devient un être vraiment conscient, mais à une échelle cosmique, on va dire. C'est comme une incarnation d'un de mes personnages. Voilà, je parle un peu de mes bouquins, mais un de mes personnages, mais à une échelle cosmologique ou cosmique, en fait. Donc voilà, une échelle étendue.
Donc on a le vaisseau avec intelligence artificielle qui est une première forme de personnage. Là, on est sur une forme encore plus...
C'est quand même un vaisseau qui a une conscience qui n'est pas née de l'intelligence artificielle. Ouais. Mais comme il est... Il a quand même une pensée, en fait.
Donc c'est l'étape encore un peu au-dessus. Il est encore plus personnage, je dirais, que la vulgaire intelligence artificielle froide. Pierre, tu voulais...
En confident, ça marche ?
Ouais. Je ne suis jamais tombé amoureux d'un vaisseau encore, donc il y a encore un peu de boulot pour vraiment personnaliser les vaisseaux. Quand on fait du space opéra, on est toujours confronté au déplacement dans l'espace-temps. Et entre autres à la sacro-sainte vitesse de la lumière et à la théorie de la relativité. Ce qui fait qu'on est obligé d'user de subterfuges qui s'appellent de la magie, hein, tout simplement, parce que ça n'existe pas. Et que si on ne veut pas que les voyages s'éternisent indéfiniment, on est obligé de passer outre cette loi physique. Et donc, après, il y a tout un tas de moyens de le faire, puisqu'on est dans la magie. Hein. Enfin, pour moi, on est quand même dans la magie. Et je pense que le space opéra est le genre qui se rapproche le plus de la fantasy à ce niveau-là, ne serait-ce que par souvent les structures sociales et les personnages archétypaux. Et je pense qu'à ce moment-là, on a un peu toute latitude pour inventer des vaisseaux spatiaux parce qu'on outrepasse les règles de la science. Donc Donc je me suis amusé à en créer tout un tas de genres différents. Laurent, tu parlais des vaisseaux organiques, donc j'ai fait ça dans les Guerriers du Silence, qui s'appelle les Xaxas, qui sont des migrateurs célestes qui prennent des parasites à l'intérieur d'eau et qui du coup transportent les parasites d'une planète à l'autre. Pour les griots célestes, j'ai inventé la Caldria, que personne ne sait ce que c'est, même pas moi, et surtout pas moi, hein, qui est une sorte de force qui les prend, qui les transporte à travers l'espace. Dans les Guerriers du Silence aussi, il y a le transfert instantané, ce qui est vachement pratique, et coûte le moins cher, mais c'est pas facile à faire. Puis sinon, je suis revenu dans les vaisseaux classiques, par exemple dans Absalon, où c'est un vaisseau génération, donc il faut que le voyage dure très longtemps, donc on est en deçà de la vitesse lumière, ce qui permet que plusieurs générations naissent à l'intérieur du vaisseau, et que le vaisseau effectivement devient un espace un peu personnage dans le sens où il est très important et que les gens vont vivre à l'intérieur pendant un siècle ou deux. Puis il y a des vaisseaux classiques et on s'est amusé avec Alain Grousset à imaginer un truc pour Gigante. C'est le père d'un garçon s'en va sur une planète, il va mettre 40 ans à faire le voyage pour aller sur la planète. Le fils qui a 20 ans, lui, il veut rejoindre son père pour se venger de lui, et les voyages spatiaux ayant progressé, il va mettre 2 ans. Donc il va arriver avant son père, et quasiment au même âge. Donc c'est ce genre de choses qui sont amusantes à faire avec les vaisseaux spatiaux et les voyages dans l'espace-temps. C'est vraiment un terrain de jeu extraordinaire, parce qu'à la fois il associe la mythologie et puis le rêve. Je pense que c'est le dernier refuge du rêve en science-fiction, qui est plutôt tendance paranoïaque et négative, dystopique, et avec le space opéra, on peut renouer avec cette espèce de plaisir fabuleux de découvrir quelque chose d'inconnu.
J'ai envie de poser une question à Alberto. Un vaisseau spatial au niveau graphique, pour toi, est-ce que c'est vraiment un personnage ou plutôt un décor?
Bon, un petit peu tous les deux. Moi, au niveau de design, j'ai fait face comme un personnage. En plus, j'ai fait de la recherche pareille que j'ai fait pour les personnages. J'ai trouvé des styles un petit peu de la côté humaine plus proche à la réalité, à la science. Et pour la côté alien, je m'en fous, je pars avec l'imagination et je fais un petit peu plus quand je veux. Mais de mon côté, comme dessinateur, j'essaie de donner les vaisseaux, même si on n'a pas un vaisseau sur la série des comics qui a de l'intelligence artificielle, j'essaie de les donner une personnalité. Parce que tous les deux, sur la série, on a deux côtés, la côté humaine et la côté alien. Et tous les deux côtés ont un vaisseau. Et les deux jouent un rôle très important sur l'histoire. Et même les personnages vivants que les personnages vaisseaux spatiaux, ils doivent avoir une personnalité assez marquée, forte, parce que c'est un élément de plus sur l'histoire. Donc moi, comme dessinateur, j'essaie de donner les vaisseaux spatiaux les mêmes importances que les personnages vivants. Voilà.
Et pour vous, auteur, le vaisseau spatial, alors, c'est plutôt un décor ou plutôt un personnage? Ou les deux? Ou est-ce qu'on peut jouer entre les deux extrêmes du spectre?
Pour moi, c'est clairement c'est un décor aussi pour les colons humains en fait qui l'aperçoivent. C'est un décor, c'est-à-dire il est impénétrable, c'est un élément du décor justement. On peut rien faire contre, on peut pas y accéder, on est obligé de le subir en fait. Et bien évidemment pour les créateurs de ce vaisseau spatial, en fait, c'est pas vraiment des créateurs, même je peux même pas parler de créateurs. C'est un vaisseau qui s'est généré lui-même en fait. Et évidemment, c'est un vaisseau au personnage, quoi. Et surtout qui va prendre de plus en plus d'importance parce qu'il a un dessin, un but dont tout le monde ignore ce dessin, et même la civilisation dont il est issu, il ignore quel est son véritable but, en fait, dans l'histoire. Et ça, on le découvre, on va le découvrir bientôt, quoi.
Voilà. Ne spoile pas ton...
I think it's fun to do both, to do it as a background and up front. I think one of my favorite from back when I was very small, artificial intelligence ships, you mentioned HAL from 2001, is a sort of a background to that story, but in fact he's not. In fact, he's driving the whole story. It's his psychological conflict that's causing all of this to happen, or at least the events that happen on the ship. And so I find it kind of fun both as a background because it provides such a rich setting, and also it's really interesting to then look from that perspective as well. So I think they're both really valuable.
Moi, de mon côté, les vaisseaux, ils sont plus graphiques qu'autre chose. Mais en fait, mon appréhension du vaisseau spatial, c'est avant tout un objet esthétique, en fait. Donc, je le pense d'abord comme quelque chose qui doit être beau, quelque chose qui doit, même si c'est quelque chose d'avant tout utilitaire, puisque c'est la seule chose qui sépare finalement l'homme quand il est dans l'espace de la mort. Donc, il faut qu'il soit absolument parfait d'un point de vue fonctionnel, et il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc c'est un vaisseau comme les bateaux du 16e, 17e siècle, c'est-à-dire de la très haute technologie, mais il faut qu'il soit, pour moi, il faut qu'il soit beau. Il faut que à chaque fois que je décris un vaisseau, il s'écarte de la norme d'une certaine manière. Et moi, j'ai été nourri vraiment c'est une des sources d'inspiration. Les couvertures de livres des années 60-70 avec les vaisseaux, des vaisseaux qui ressemblaient parfois à des casseroles volantes, hein, mais voilà, avec des auteurs comme Chris Foss, comme McKee, etc., qui ont créé des vaisseaux absolument fabuleux et qui ne ressemblaient pas forcément à des vaisseaux d'ailleurs. Donc voilà, donc pour moi, un vaisseau, c'est avant tout une œuvre d'art, même si mon appréhension, elle est art science concernant les vaisseaux. Il faut que ça fonctionne.
C'est presque un décor ou un personnage costumé, si je veux reprendre la sémantique.
Ça, ouais.
Tu parlais des explorateurs du XVIe siècle. Est-ce que c'est fondamentalement différent un vaisseau spatial d'un vaisseau qui a traversé l'Atlantique en 1492 ?
Non, c'est un peu le but quand même. C'est le but, c'est de découvrir des nouveaux mondes, et donc le vaisseau, c'est le vecteur de ça. Dans mes romans, j'ai toujours fait attention. J'ai appris la leçon de 2001, le c'est de l'espace. Donc mes IA, elles sont toujours limitées dans les vaisseaux pour justement éviter les problèmes d'ego. Voilà.
Ce qui n'est pas le cas dans ton œuvre, au contraire.
No, but I would still agree that there's a fundamental similarity there between those ships and the ships in science fiction. I've heard it argued that science fiction is very much a literature of the colonial era, that it grew out of that, out of Europeans taking boats to other places and those long, dangerous journeys. And I think there's a really good argument for that. I think there are a lot of similarities there.
Il y avait aussi quelque chose, je crois que j'en avais parlé dans l'email. C'est que, je me rappelle, c'est bouquin qui a amené Laurent en fait sur les vaisseaux spatiaux. Je crois qu'on est à peu près de la même génération, donc ces images de vaisseaux spatiaux, quand j'étais adolescente, me faisaient complètement partir dans des délires. Et en fait, j'avais comparé l'image du vaisseau spatial au cheval blanc du chevalier. En fait, c'est-à-dire qu'on a le chevalier, c'est l'image du chevalier, la chevalerie. Mais en tout cas pour moi, le cheval blanc qui est sous le chevalier, était aussi important, si ce n'est plus, que le personnage humain. Et pour moi, le vaisseau spatial, c'était ça. C'est le vecteur complet d'imagination. Donc pour moi, il y a quelque chose de très... Ça me fait fantasmer, en fait. Quand j'étais enfant, et ça, je pense que ça a continué. C'est pour ça que mes vaisseaux ont toujours... comme disait Laurent, ils doivent avoir un aspect extraordinaire et différent, et qui se démarque, en fait. Alors j'imagine toujours des vaisseaux spatiaux humains, très carrés, enfin très technologiques, etc., et des vaisseaux extraterrestres qui sont complètement, ouais. Où on est libre, et on ne comprend rien, de toute façon, comment ça marche, donc on peut y aller, en fait, c'est un peu ça.
J'aime bien ton image du chevalier, du cheval blanc. Est-ce qu'on peut, donc un chevalier n'est rien sans son cheval, est-ce qu'on peut imaginer écrire des bouquins de science-fiction, plutôt de space opéra? Et donc, comme je le disais, toi, tu as écrit un Planète Opéra où tu aurais pu te passer de vaisseau, mais tu t'es pas passé de vaisseau, sans vaisseaux spatiaux du tout. Est-ce que c'est imposé dans la forme? Est-ce qu'on ne peut pas s'empêcher de le faire? Ou est-ce qu'on peut le faire? Et peut-être même au niveau graphique, tu te vois dessiner une histoire de science-fiction sans dessiner un ou deux petits vaisseaux spatiaux
pas,
ici ou là?
Pourquoi pas, c'est possible. tout c'est possible. Tu peux écrire, faire débrouiller une histoire dans un planète qu'on ne connaît pas, et c'est de la science-fiction. Et il ne faut pas avoir des vaisseaux spatiaux. Mais c'est un peu comme on parlait avant, c'est les vaisseaux spatiaux, c'est beau, c'est sexy. On aime bien. Hein. C'est un peu comme la bagnole. Oh, ben, ouais, j'aime bien. C'est un peu ça. On a tous envie de conduire un beau bagnole, une belle bagnole, ou d'aller en bateau qui c'est super bien, rapide. Ça, dans la science-fiction, ça, c'est les vaisseaux spatiaux. Et c'est ça qui nous attire, je crois. C'est la côté sexy. Donc, oui, on peut s'éloigner de ça. En fait, sur la Terre 44, on s'éloigne un petit peu de ça, de la côté humaine, parce qu'on reste toujours très proche de la réalité. C'est pas un futur utopique, c'est maintenant. Donc, c'est un vaisseau assez proche des vaisseaux NASA, des trucs comme ça. Mais quand même, il reste ce truc qui t'attire tout le temps des voyageurs, d'y aller à trouver l'inconnu, qui, je crois que comme les êtres humains, ça nous reste toujours à l'intérieur. Ça nous fait penser, ça nous fait rêver, même quand on lit. Donc, on peut passer du vaisseau spatial, oui, mais pourquoi?
I think the comparison to cars is a good one, because we all know some of us may have a car that's not great and sexy, but we love our car, kind of like Han Solo with the Millennium Falcon. Like, yeah, she's a piece of junk, but she'll get me anywhere. And I think the thing about having a car is you can go anywhere, and the spaceship kind of stands for that sort of potential ultimate freedom. Maybe you don't go any place past the asteroid belt, but you totally could. You could anytime you wanted to because you have a spaceship, right?
But the Falcon Millennium is not a spaceship. It's quite good actually. Peut-être une autre composante du vaisseau spatial, tu l'as déjà un petit peu évoqué, c'est je suis d'accord avec vous, ça ressemble vraiment à une bagnole, une belle bagnole, il y a ce côté assez sexy, mais il y a peut-être plus que ça dans la mesure où c'est, je crois que tu disais, c'est ce qui te préserve de l'infini et du vide, c'est ton refuge un peu, c'est ton dernier espoir. Et c'est aussi quelqu'un, si je peux employer la personnification, quelqu'un avec qui tu vas passer souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à cause de la vitesse finie de la lumière ou la plupart des vaisseaux, des voyages spatiaux dans la plupart des œuvres de space opéra se passent sur des échelles de temps assez grandes. Peut-être on viendra au téléporteur après, mais est-ce que cette composante, donc passer beaucoup de temps dans un endroit qui est en fait souvent petit et pas le truc qui a en plus du côté sexy des voitures qui fait que ça devient absolument fondamental, un vaisseau spatial dans le...
Ouais, il y a ça. Il y a un aspect environnemental qui est évident, qui a été développé. Moi, par exemple, un de mes livres les plus forts que j'ai lu, c'est Croisière sans escale de Brian Aldiss. Non-stop en anglais, et qui présente un vaisseau génération, mais au début, ses habitants ne savent pas qu'ils sont dans un vaisseau génération parce que les hydroponiques, les cultures ont complètement envahi le vaisseau et ils se croient dans une jungle, tout simplement. Ils vont découvrir qu'ils sont dans un vaisseau et que non seulement le vaisseau les préserve, mais en plus, ils sont arrivés depuis très longtemps, ils sont en orbite autour de leur destination, de leur planète de destination, depuis peut-être plusieurs générations. Il y a ce côté matriciel dans le vaisseau spatial quand on le voit de l'intérieur. C'est une matrice. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Ripley, quand elle va interroger l'ordinateur du vaisseau, l'IA, enfin l'ordinateur de bord s'appelle Maman. Elle l'appelle Maman.
Oui, évidemment. Allô ? Oui, ça marche. Évidemment, il y a cet aspect confiné qui fait que les caractères des personnages vont se dévoiler de plus en plus. Comme dans tout espace confiné, parce que ça crée des angoisses quand même bien particulières, surtout avec cet environnement du vide qui est potentiellement dangereux. Je voulais revenir sur l'aspect esthétique des vaisseaux. Moi, j'en ai rien à foutre. Hein. L'aspect esthétique du vaisseau, du moment qu'il marche, il peut être bricolé, ça peut être une deux chevaux de l'espace, c'est pas très grave. Du moment qu'il emmène ses personnages au bout du voyage. Et puis, je trouve que c'est une béquille qui montre l'incapacité de l'humain à vaincre... certaines lois de l'espace-temps et qui est obligé de recourir à la technologie. Donc j'ai essayé de travailler ça dans la guerre du silence où il y a le transfert instantané dont on parlait, la téléportation, mais où les gens trouvent à l'intérieur d'eux-mêmes la force de pouvoir se transporter d'un espace à l'autre. Alors ça paraît totalement impossible, mais comme les vaisseaux, hein, je vous rappelle. Quand on regarde un peu dans les textes anciens comme les Védas et ce genre de choses, ce qui est loin de la science-fiction là, il y a un monsieur qui s'appelle Patanjali qui a fait des formules qui s'appellent les Yoga Sutras qui en théorie, personne n'a réussi hein, mais bon, on ne sait jamais, permettent de se transférer d'un endroit à l'autre de façon instantanée. Donc voilà, le vaisseau spatial nous montre qu'on a besoin de béquilles technologiques comme les voitures pour se déplacer. J'avais beaucoup aimé par exemple dans les chroniques d'Alvin Lefeuzer d'Orson Scott Card le fait que les Indiens courent dans la forêt avec une vitesse incroyable, etc. Donc il n'y a pas besoin de technologie, mais nous on a besoin de technologie parce que quelque part, avant de parler de post-humanité, d'homme-machine, etc., nous n'avons pas développé la vraie humanité. Ce qui m'intéresse à moi, c'est de savoir de quoi l'humanité est capable vraiment, quel est son potentiel infini, je pense qu'il est infini, et comment est-ce qu'on peut y accéder. Et pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Et je fais comme tout le monde, du coup j'utilise des vaisseaux spatiaux hein, parce que je recours à la technologie, mais c'est décevant quelque part quoi. Donc l'esthétique, moi je suis pas très sensible à l'esthétique des voitures du moment que ça roule, et pour les vaisseaux c'est pareil, donc
mais
vas-y Laurent,
défends ton esthétique. Pour t'interrompre, oui voilà, il faut que je défende le versant Art Science, mais en fait dès le départ les vaisseaux ont été des vaisseaux de fantasy en fait. Quand on voit les vaisseaux des Pulps qui faisaient 1 km de long,
oui, c'est ingérable.
C'est de toute façon, on était dans une science qui était tellement fantasmée qu'on était proche de la magie. La façon dont le héros de Gustave Le Rouge dans son diptyque sur la planète Mars va sur Mars, c'est un vaisseau qui est propulsé par de l'énergie spirit produit par des fakirs. Donc on peut tout à fait. Ouais, donc ça date de 1910 par là. Donc ça s'est toujours bien marié en fait, en réalité. Le côté IA des vaisseaux, quand on voit les vaisseaux de la culture, c'est quasiment des semi-divinités quelque part. Et il y a ce côté un vaisseau, ça navigue dans le ciel et c'est plus proche du ciel, quoi, du ciel à tous les sens du terme. Et même inconsciemment, un auteur de SF, il travaille là-dessus, en fait.
Oui, probablement. Un côté mystique du vaisseau. Ah, ouais, c'est un mot qui est difficile à avaler.
Ça ne sortira jamais.
En science-fiction.
Ouais, je crois que la discussion illustre bien quelque chose, c'est que le vaisseau est au moins un personnage parce qu'il est varié, quoi. Enfin, on a vu qu'il y avait beaucoup de points de vue différents, beaucoup de façons de fabriquer des intelligences différentes, beaucoup de façons d'utiliser le vaisseau dans les intrigues. Hein. Donc, a priori, je pense que la conclusion va être que le vaisseau, c'est quand même un personnage, hein, n'est-ce pas ? J'ai pas cherché avant de venir ici, mais est-ce que vous connaissez une œuvre qui soit un space opéra où il n'y ait pas du tout de vaisseau ? Comme ça, à brûle pour point ? Ursula Le Guin nous dit la... Lequel ?
Oui, exact. Il y a Ursula Le Guin. Il y a les space opéras de Julia Verlanger, qui pour elle, c'était la même chose que Pierre. C'est-à-dire que pour elle, un vaisseau, ça pouvait être fabriqué à partir de n'importe quoi. Elle s'en fichait totalement du moment que son personnage allait d'un point A à un point B. C'est ça qui comptait, voilà.
Puisqu'on a eu une intervention dans la salle, même s'il est un peu tôt, est-ce qu'il y a des questions brûlantes dans la salle ? Non, pas encore ?
Si, là-bas.
Si, il y en a une là-bas. Je ne sais pas si on a déjà les micros ou pas. Ouais.
Il faudrait téléporter le micro.
Un vaisseau pourvoyeur de micros.
Avec un drone.
Bonjour. Vous n'avez pas parlé du tout d'architecture de vaisseau comme élément d'architecture et comme retranscription d'une civilisation. Or, la plupart des vaisseaux sont généralement plus qu'une voiture, mais plutôt une maison ou un immeuble ou une ville.
On l'a un peu dit avec la notion de vaisseau de décor, mais on peut peut-être effectivement approfondir cet aspect-là.
D'ailleurs, dans le bouquin, la trilogie d'Alastair Reynolds, la dernière, Blue Remembered Earth, en fait, les vaisseaux qui partent dans le deuxième tome, c'est vraiment des univers, des maisons qui sont creusées dans des astéroïdes. C'est vraiment des villes, c'est avec des quartiers, c'est gigantesque, etc. C'est vraiment des architectures, quoi. C'est comme des îles, mais à l'intérieur, en fait. Je sais pas si quelqu'un a lu cette trilogie, en fait, ici. C'est vraiment... Je veux compléter.
Tu confirmes, c'est ça? Oui, bah ça, c'est on va vers donc les vaisseaux qui sont plutôt très grands, donc. Et
non, dans les vaisseaux d'Omal, je peux confirmer en fait ce que monsieur disait. En fait, c'est une des trois espèces qui peuplent Omal. Il y a les humains, les Hodkin et les Shil. Les Hodkin, eux, ils ont c'est une civilisation basée sur qui est très organique et qui fait pousser ses usines, dont toutes les architectures justement sont organiques. Et ils font pousser également leurs coques de vaisseau. Donc c'est des vaisseaux qui ressemblent à des sortes de grands haricots. Voilà. Après ils les garnissent de propulseurs, mais en tout cas la coque elle-même,
Je croyais que tu faisais des vaisseaux sexy.
Elle a fait pousser. Oui, voilà.
Mais
en fait, quand on dit sexy, ça veut pas dire. Que c'est des dragsters. Ça veut dire simplement qu'ils ont quelque chose en eux d'intéressant. Et qu'on n'a pas vu avant. En fait, quand on dit sexy, c'est ça. En science-fiction, sexy, ça veut dire nouveau. Quelque chose qu'on a, un novum, quelque chose qu'on n'a pas vu avant et qu'on intègre pour ajouter sa petite brique. C'est ça l'idée.
Alberto, peut-être, c'est un vaisseau sexy, c'est quoi pour un illustrateur?
C'est une bonne question, ça. Bon, ça dépend de l'illustrateur, j'imagine. Pour toi, alors? Pour moi, c'est bon. Il y a un côté bien sûr de design, de l'aspect extérieur, et aussi pour moi les rôles que les vaisseaux vont jouer sur l'histoire. On peut avoir un vaisseau qui qui est un peu cool, on s'en fout. Ça c'est pas trop. Ça, c'est pas trop attirant pour le lecteur, même pour l'illustrateur. Mais si le vaisseau est important, même comme décor, même comme personnage, on va toujours mettre un peu plus de nous sur la création du vaisseau, et ça va faire devenir plus sexy, même au lecteur, même à l'illustrateur, le dessinateur. Donc, c'est toujours, bon, de mon côté, de mon idée, c'est que les vaisseaux, si c'est important sur l'histoire, il faut mettre à fond pour les faire attirants, sexy. Donc, voilà.
Ouais, c'est marrant, ce terme sexy pour les vaisseaux. Moi, j'ai fait une école de design, puis je suis aussi dessinatrice. Et je me rappelle d'un exercice qu'on nous avait demandé. On nous avait dit, bon, on devait designer justement des appareils, des télécommandes, des téléphones, enfin tout. Ouais. Et un jour, on nous a dit, maintenant, on aimerait que vous dessiniez un vaisseau spatial, donc caractère design, mais que vous utilisiez que des éléments naturels, genre des courgettes, des petits ronds, des trucs comme ça, etc. Ouais. Et on n'avait absolument pas le droit d'utiliser autre chose, et on devait dire, voilà, qu'est-ce qu'on a utilisé comme ça, et faire un produit, en fait, qui soit complètement organique, avec une sacrée gueule. Fallait que c'est une école de design, hein, donc c'était, voilà, bon. Et composé, en fait, d'éléments organiques, c'est-à-dire c'était vraiment une composition, et c'était super intéressant, en fait.
Ça fait une ratatouille quand t'arrives dans les...
Voilà, ouais.
C'est le Archimboldo.
Quand tu passes à stratosphère.
C'est très esthétique.
Peut-être un dernier point qu'on peut évoquer, c'est l'aspect capitaine vaisseau qu'on trouve pas dans tous les vaisseaux du space opéra. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté personnification du vaisseau quand il est la propriété exclusive d'un capitaine, comme Han Solo et le Faucon Millenium, comme on disait tout à l'heure? Et c'est son joujou un peu. Alors on rejoint aussi un peu l'histoire de la voiture, mais est-ce que ça renforce pas le caractère personnifié d'un vaisseau quand il a son capitaine et que son capitaine l'aime? On peut presque même aller jusqu'à dire ça.
Yes and no, I think. I think that's a really common dynamic in stories, but there are also ships like Moya in Farscape. I don't know how many of you are familiar with Farscape, but Moya is a living ship who doesn't have a captain. She has passengers and she has a pilot, but the pilot doesn't necessarily tell her what to do. She decides what to do. And Moya is a really cool ship. But to some extent that is subverting that really common dynamic that's going against the common, you know, you're an important ship because you have the captain, where this is the passengers really need the ship very badly, which I think kind of ties back into the idea of ships as architecture or as cities. I think you were saying earlier that when you're in space, you completely depend on that ship for your life. And even if you're in command of that ship, insubordination, and everybody on that ship is dead. And I think that's a really fraught relationship, and I think that's something that science fiction really likes to play with.
En fait, il y a eu un basculement avec l'IA quand même. À la fin des années 80, on s'est mis à peupler nos vaisseaux d'IA, et donc finalement les IA devenaient les capitaines et même une partie de l'équipage. Donc ça a un peu dissous en fait ce rapport de la marine, enfin justement qui est hérité de la marine à voile, quoi. À mon avis.
Peut-être avant qu'on passe le micro, qu'on repasse le micro public, quel est votre vaisseau favori aux uns ou aux autres, qu'il soit de vous-même ou de quelqu'un d'autre? C'est pas une question facile. Qui se lance en premier? Comme ça, hein, pour.
Moi, c'est le Battlestar Galactica.
Ouais.
Pour le design?
Non. Pour l'intérieur et puis tout ce qui s'y passe et l'ambiance intérieure et puis le côté vieillot du vaisseau avec les téléphones à l'ancienne en bakélite, tout ça.
Donc le Battlestar de 2003 alors.
Non, le nouveau, mais l'intérieur, comment, ouais, l'architecture intérieure et puis l'espèce de faune qui est à l'intérieur du vaisseau, ça grouille de vie en fait. Il est très moche ce vaisseau, mais j'adore l'intérieur. J'avais
moi,
complètement.
Moi je le trouve beau, moi c'est marrant. Parce qu'il a un côté reptilien qui est.
Ouais, enfin moi je le trouve un peu trop massif, mais par contre l'intérieur j'adore quoi. J'aurais aimé vivre dedans. Quoi.
Qui se lance sur un autre avec le pourquoi, bien sûr.
Ah, bon, l'alcool millénaire, forcément. Ouais, j'ai grandi en regardant les films de Star Wars, donc voilà. Et on parlait un peu du capitaine et de lié, bien sûr, au vaisseau. Et on n'imagine pas l'alcool millénaire. Qui soit capitainé par une autre personne, qui soit pas en solo. Et sur la nouvelle trilogie de Star Wars, on a un petit. Comment dire. On voit comment le vaisseau s'est capitainé par une autre personne. Et pour moi, de mon côté, et ça me fait un peu chier. Non, c'est pas la même chose. Donc, oui, il y a bien une liaison entre capitaine et vaisseau. Et peut-être que ça fait ces vaisseaux-là mon préféré de l'histoire. Voilà.
Peut-être que tu peux répondre à la question que je posais au début. C'est qui le plus important entre le Faucon Millenium et Han Solo? Je crois que tu as déjà donné la réponse. Mais...
Non, bon. C'est toujours les personnes humaines qui font bouger les choses. Donc oui, l'alcool millénaire, c'est très important, mais sans Han Solo, ça ne peut pas marcher. Donc on a besoin de Chewbacca, Han Solo, tu vois. Ouais. Donc on a besoin de la crew pour avoir tout complet.
Mais c'est un vaisseau qui est très mécanique, en fait. Il n'y a pas tellement d'intelligence artificielle, d'où on a besoin du capitaine, hein. Là, il prend pas de décision, hein. C'est Han Solo, ça marche jamais, ça tombe en panne, Lightspeed marche jamais, enfin c'est pour
c'est
ça qu'on aime ce vaisseau, hein, je crois.
Le vaisseau tel que les vaisseaux maritimes du XVIe siècle, le Faucon Millenium. Ouais.
Moi j'ai beau rappeler, enfin fouiller ma mémoire, je vois pas trop quel vaisseau me plairait, donc je vais contourner la question en me disant quel est le vaisseau que j'ai le plus aimé faire dans mes bouquins, et il se trouve que ce sont des bestioles qui s'appellent les Xaxas dans la Guerre du Silence. Ces migrateurs célestes qui passent tous les 8000 ans et qui peuvent essaimer les gens dans la galaxie, parce que ce rapport organique me paraissait essentiellement écologique et ça m'a vraiment intéressé d'avoir le vaisseau, enfin l'organisme qui emmène son parasite et l'espèce de dialogue qui s'établit avec le parasite, avec la personne qui transporte. Et c'est ça qui m'a le plus plu, de travailler dans tous les space opéras que j'ai fait. Quoi.
Donc on a un vaisseau un peu maison, je dirais, pour Battle Galactica, un vaisseau organique, un vaisseau un peu classique.
Moi, j'en ai deux. Il y en a un qui me tient à cœur, qu'on n'a pas abordé, mais qui représente une époque, qui est celui de la V2. C'est-à-dire les vaisseaux, c'est la fusée de Tintin. Donc c'est... Moi, je me rappelle d'un bouquin, un de mes tout premiers bouquins de SF que j'ai lu, qui s'appelait XP-15 en feu, de Pierre Deveau, c'est un vieux machin, et avec en couverture ces fusées qui ressemblaient aux fusées, aux vaisseaux des années 50, hein, qui étaient des sortes de V2 gigantesques, en fait. Il y a celui-là,
qui... Donc le vaisseau presque réaliste, on va dire.
Ah, ben complètement réaliste, mais qui était transposé dans les étoiles. Et pour moi, ça rentre en résonance avec mon premier éditeur, qui s'appelait Fleuve Noir, pour la collection Anticipation, dont les dos de la couverture, c'était une fusée, une sorte de fusée V2, mais avec des boosters, on va dire, sur les côtés. Donc voilà, pour moi, ça représente une partie de mon enfance de lecteur de SF. Mais sinon, le vaisseau sur lequel j'aurais bien aimé être, c'est peut-être un des vaisseaux du film Silent Running de Douglas Trumbull, avec ces vaisseaux avec des dômes, où ont été mis les derniers arbres et les derniers fragments de nature, puisque la Terre a été entièrement bétonnée. Et voilà, et à un moment, on estime que c'est trop cher, donc les vaisseaux doivent être débarrassés de leur cargaison vivante. Pour redevenir des vaisseaux marchands. Voilà. Donc c'est cette espèce de rapport conflictuel entre la technologie et la nature, et à un moment cette technologie qui est l'ultime refuge de la nature, en fait ce sera son linceul. Voilà.
Le vaisseau arche un peu en voilà. quelque sorte.
Ouais. Je viens de trouver un vaisseau qui m'a beaucoup plu, c'est dans Firefly, une série. Qui est un vaisseau hyper bricolé avec sa mécanicienne de bord qui répare le moteur régulièrement et qui transporte des vaches dans l'espace. Ça m'a énormément plu. Une sorte de western de l'espace avec le convoyage de troupeaux à travers les planètes.
Le vaisseau guimbard de Rafistolé, un peu comme le faucon millénaire.
Totalement Rafistolé.
Il y avait un film qui s'appelait Space Truck. Ça devrait te plaire.
Ouais.
C'est une sorte pareil, hein, c'est une sorte de routier de l'espace.
Ouais.
Avec des cochons cubiques pour qu'ils tiennent moins de place. C'est horrible.
La génétique permet ça. Ouais.
So, Anne, your favorite spaceship?
It's really difficult to pick just one, isn't it? Because there are so many wonderful ships. A number of the ones that I love have already been mentioned. Battlestar Galactica is fabulous. Serenity is a wonderful ship. I love the way that they're always having to, you know, to repair it. I was a huge fan of the Enterprise when I was little, big Star Trek fan. The Millennium Falcon is fabulous. Moya from Farscape is also wonderful because she's so very different from many others. But I guess I'm going to have to go back to Discovery in 2001 with Hal, who is just... Hal's the best character in that movie, and he's a wonderful character, and he's basically the ship. And it's just... Yeah, I'm going to have to go with 2001. Yeah.
Okay. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'on n'a pas parlé de votre vaisseau spatial favori?
Bonjour.
Bonjour.
Moi, je me posais une question. À partir du moment où on l'a considéré comme un personnage, ce vaisseau, est-ce que c'est toujours une machine? Est-ce que c'est toujours un outil? Et par conséquent, est-ce qu'il y a toujours un lien de subordination entre l'homme et le vaisseau?
Je pense que c'est la géométrie très variable en fait, mais ça dépend, je pense.
Yeah, actually, I think science fiction often uses that relationship with the spaceship to explore exactly that question: what is a machine? How is a person a machine or not a machine? What does it mean when you're taking a character who's essentially a person and treating them like a tool? What does that mean? And I think that's a really interesting thing for science fiction to explore, and I think a fair amount of science fiction does.
Including yours.
Yes, absolutely. Explicitly mine, yeah.
Je pense que la... Ça marche? Je pense que la relation de subordination s'arrêterait à partir du moment où le vaisseau aurait une conscience.
Mais est-ce que le vaisseau a une conscience? Est-ce que l'IA est une conscience en elle-même? Est-ce que, voilà. Je pense que c'est cette question-là qui est posée aussi. Est-ce que la machine peut, l'intelligence artificielle, ce que semble dire un auteur comme Jean-Michel Truong, où il pense que l'intelligence artificielle va nous supplanter parce qu'on est vraiment un petit peu organique et un petit peu faiblard et un petit peu con aussi, il faut reconnaître. Et que, du coup, la vie pourrait se prolonger par une forme plus fiable de technologies qui sont les intelligences artificielles. J'y crois pas du tout, personnellement. Je crois que la conscience, c'est typique de l'humain. Je ne sais pas si on arrivera à donner une conscience aux intelligences artificielles, ce que je n'espère pas, d'ailleurs. Je pense, encore une fois, que ce qui est intéressant, c'est de développer notre propre conscience, d'abord et avant tout, quoi.
Alors, moi, il y a un vaisseau dont je voulais parler, c'est la TARDIS. Parce que bon, Docteur Who a plein de défauts, c'est ultra sexiste et c'est ultra répétitif, mais quand même, la TARDIS, quoi, ça va partout dans le temps et l'espace, et l'intérieur c'est est moche. Plus grand que l'extérieur. Mais, et en plus, c'est un espèce de château fantastique où on ne sait jamais quelles pièces vont apparaître et où si on ouvre une porte, on peut découvrir une nouvelle pièce après des milliers d'explorations du vaisseau.
Ouais, mais. J'arrive pas à le classer dans les vaisseaux spatiaux, moi. C'est quelque chose de beaucoup plus grand qu'un. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus multifonction qu'un vaisseau spatial dont le but c'est d'emmener. Là, ça se déplace dans le temps, ça atterrit. C'est plus c'est un concept en soi, le TARDIS. Mais j'arrive pas vraiment à le mettre à le classer là-dedans, en fait, bizarrement.
Je crois que tu l'avais dit dans ta question, en fait, c'est voyage temporel également, et puis intérieur mal défini, on va dire. Une autre question ?
Là, de ce côté. Bonjour déjà. Ouais. Alors, il ne faut pas me montrer ça comme ça. Alors, une fois qu'on a considéré le vaisseau comme un personnage à part entière et qu'il dépasse finalement sa fonction de simple véhicule dans l'espace, c'est une question un peu compliquée, je suis même pas sûre de pouvoir la formuler, donc je vais le faire plus simple. Est-ce que les vaisseaux qui ont une personnalité, on va dire, sont-ils toujours condamnés à mort? C'est un peu brutal dit comme ça, mais j'avais souvent constaté ça, des vaisseaux qui dépassent donc leur fonction de vaisseau et qui on commence à avoir un impact émotionnel avec eux, un contact, et finalement c'est cette personnalité qui devient un dysfonctionnement et qui paf, oui, ça finit par les tuer.
Ça ressemble à beaucoup d'histoires mythologiques, hein.
Oui, en quelque
Prométhée, voilà, qui veut égaler les dieux. Si le vaisseau veut égaler l'humain, ou le golem, ou ce genre de créatures qui finissent par échapper à leur créateur, ça semble être une transposition de mythes déjà très anciens, en fait, je pense.
I think there's a lot of anxiety surrounding even other human beings who we rely on for our standard of life, for the food we eat and the clothes we wear. There are or groups of people who live near us who are being basically oppressed. There's a big anxiety and fear about what if they get a chance to do to us what we've been doing to them, even if you don't want to think about it that way from day to day. And I think the whole story about artificial intelligences and the anxiety about artificially intelligent spaceships ties back to that anxiety. They've been our servant all this time. What if they don't like it? What if, and they have so much power over us on a ship. The smallest thing can kill everybody on the ship, and if your ship decides it doesn't like you, well, you're toast, right? So I think that's a pervasive anxiety just generally, and I think that does work itself out in that way in those stories.
Est-ce que votre question sous-tend le fait que quand on outrepasse sa fonction, on se condamne quelque part? Est-ce que c'est ça que vous voulez demander?
Voilà, dans quelque sorte, parce que...
Est-ce que si on va plus loin que ce pour quoi on est programmé, à ce moment-là, on se condamne soi-même?
En quelque sorte, oui. J'avais par exemple un exemple. C'était le vaisseau dans Magnetic Rose de Katsushiro Otomo dans les courts-métrages Memories. voilà, où la machine est complètement détraquée par le souvenir de sa propriétaire et qui finalement le condamne à sa perte, lui et ses voyageurs. C'était un peu dans cette idée, le fait que le vaisseau n'est plus complètement un vaisseau, enfin uniquement un vaisseau, mais commence à devenir un personnage, une nouvelle intelligence, et que finalement c'est cette évolution qui va le mener à sa perte.
Et une autre question ? Il y en a plein. Je sais pas, je vois pas les gens qui ont les micros, donc voilà, si, vu.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pensez que l'histoire d'un vaisseau peut influencer les personnages qui sont l'équipage, en fait ?
Ça voudrait dire, est-ce que quand vous achetez une voiture d'occasion, vous allez être influencé par l'ancien propriétaire ?
Peut-être. Mais est-ce que, comment dire, un vaisseau qui a une forte histoire, je ne sais pas, par exemple, on fait une référence au navire utilisé pour les grandes traversées transatlantiques. Il y a eu des navires pirates qui ont eu, comment dire, une histoire. Leur équipage a chargé ce navire-là. Et est-ce qu'il aurait été utilisé par un autre équipage en marine marchande ? Est-ce qu'ils seraient devenus eux aussi des pirates à cause de l'histoire de ce navire ? Est-ce que ça pourrait être la même chose pour les vaisseaux spatiaux ?
Je crois que ça dépend de l'auteur, ce qu'on veut en faire, quoi. Je pense que ça dépend vraiment de l'auteur. Si on veut envie de raconter une histoire comme ça, une histoire fantastique en science-fiction, par exemple. Je crois que tout le monde est libre de faire ce qu'on veut. C'est une chouette histoire, c'est une belle idée, d'ailleurs. Il y avait même une histoire d'un vaisseau spatial, je ne me rappelle plus le nom du film, où en fait le vaisseau était hanté, mais je n'ai plus le nom du film.
Event Horizon.
Event Horizon, voilà, le vaisseau est hanté, en fait. C'est le diable, quoi. Et on s'attend toujours à avoir un sujet de science-fiction, et en fait c'est du fantastique, c'est du pur fantastique, parce que c'est pas une maison hantée, mais c'est un vaisseau hanté. Donc, mais c'est cool comme concept, effectivement. Ça, mais bon, c'est libre à chacun de faire ce qu'il... On peut faire ce qu'on veut, en fait. Hein.
La question, c'est aussi, est-ce que finalement l'esprit de ses occupants influence la matière, quoi. C'est le rapport esprit-matière qui est intéressant. Là. D'ailleurs, c'est un peu la question centrale de tout, de l'esprit de la matière qui a fait l'autre, qui a commencé, quel est ce rapport, quel couple y forme. Donc, si on pense que la matière, enfin, si l'esprit peut influencer la matière, alors il est possible que la matière soit influencée au point de réinfluencer à son tour les nouveaux occupants. Et ça, c'est une optique. C'est une optique plus spirituelle, en fait.
On va prendre une dernière question ici, oui.
En fait, je pensais à un aspect qui n'a pas vraiment été évoqué, j'ai l'impression, c'est le vaisseau en tant qu'arme, parce que du coup, il y a une interaction aussi avec les personnages, il peut tuer, c'est une forme d'empuissantement au final, parce que seul dans l'espace, l'humain est faible, le vaisseau, c'est un moyen de faire la guerre, de coloniser, etc. aussi. Donc, qu'est-ce que vous pensez, je dirais, de cet aspect? Bon, c'est un peu vaste, mais...
Death Star?
Star Wars? Oui.
Sur Star Wars, la Death Star, c'est un arme. Mais en même temps, c'est une planète, c'est un vaisseau spatial, c'est l'architecture, c'est tout. Hein.
C'est ça qui était révolutionnaire avec Star Trek, clairement. Hein. C'était qu'on passait de la conquête spatiale à la découverte. Et c'est pas du tout la même chose. Et c'est ça qui est d'ailleurs paradoxal avec l'Enterprise, qui est un vaisseau militaire, a priori, mais qui est en fait tout sauf militaire.
Il n'y a rien d'étonnant là-dedans, que les vaisseaux soient transformés en armes de guerre, puisque les bateaux eux-mêmes ont été transformés en armes de guerre, les voitures avec les tanks sont transformées en armes de guerre. Systématiquement, l'humanité, quand il y a une nouvelle invention, c'est déjà une utilisation militaire qui est la première, en général. Quand vous avez un couteau, tout simplement, c'est éventuellement pour couper la viande, pour chasser ou pour cueillir des fruits, mais ça a tout de suite servi d'arme pour tuer quelqu'un d'autre, donc... Il n'y a pas de raison que les vaisseaux ultra technologiques échappent à la règle. L'atome, par exemple, voilà, vous avez l'atome qui produit l'électricité, l'atome qui détruit des villes japonaises, principalement japonaises d'ailleurs. Et voilà, donc pourquoi les vaisseaux échapperaient à cette malédiction humaine ? Et là, il y a peut-être un travail à faire sur les mécanismes qui agitent l'être humain et qui produisent à chaque époque son lot de guerres et de conflits.
Ah ben merci. Il me reste à vous signaler que tous les gens de cette table ronde, à part Laurent, sont en dédicace maintenant à la librairie. Laurent, tu y es à 5h, je crois. et puis à vous remercier tous les cinq pour cette discussion.
Merci,
merci beaucoup.